Bonjour, il est 14h, nous sommes le lundi 3 décembre, vous écoutez Radio Campus Paris et à Hawaï aussi, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et c'est déjà le sixième épisode de cette troisième saison de votre émission de Radio Campus Paris consacrée aux nouveaux talents et aux nouvelles tendances. Aujourd'hui, on va parler renaissance ou comment certains font du neuf avec du vieux. Magali Peruccini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, ça n'a pas été facile, mais merci beaucoup d'être ici. On a réussi. Vous publiez ce qu'on appelle un beau livre, ce que moi j'appelle un très beau livre aux éditions Erol, dont le titre « Nouveaux artisans, portrait d'une génération qui bouscule les codes ». Pour expliquer à nos auditeurs, vous êtes allé à la rencontre de jeunes qui ont choisi de faire un métier artisanal et le livre consiste en une série de portraits avec texte et photos.
C'est tout à fait ça.
Et vous avez tout fait, les textes et les photos.
J'ai tout fait.
Comment est né le projet ?
En fait, je tiens un blog qui s'appelle Les Mains Baladeuses depuis 4 ans, grâce auquel je pars à la rencontre d'artisans parisiens, Paris puisque c'est ma ville de résidence. Et au fur et à mesure de mes rencontres sur le blog, je me suis aperçue que je ne rencontrais que des reconvertis. Et au fur et à mesure, ça m'a quand même interpellée. Au début, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, ça fait écho à mon propre parcours. Et puis au final, je me suis aperçue qu'il y avait un vrai renouveau pour les métiers artisanaux et une vraie tendance au retour au métier artisanal et que beaucoup quittaient leur métier de col blanc pour devenir artisan.
Et justement, quand vous les trouvez spontanément, au fur et à mesure, ils sont venus à vous parce que vous aviez un blog qui était connu dans le milieu ?
La plupart du temps, c'est moi qui pars à leur découverte.
Donc vous les cherchez comment sur Internet ? Vous tapez un métier genre blanchisseur et puis vous regardez ?
Non, je les cherche sur Internet. Je les trouve dans des magazines qui sont déjà parus. Mais souvent, je me balade aussi quand même pas mal dans Paris. Donc j'aime bien pousser les portes et voir ce qui se cache dans les cours ou dans les rues. Parce que maintenant, ils sont beaucoup... ils ont pignon sur rue, contrairement à il y a quelques années en arrière. Et souvent aussi, j'ai des artisans qui me préconisent d'aller voir des artisans qu'ils connaissent et qui pourraient m'intéresser.
Alors vous avez dit que tout était né du blog Les Mains Baladeuses. Question en vache qui rit, quoi. La boucle d'oreille qui est dans la boucle d'oreille qui est dans la boucle d'oreille. Comment est né le blog ?
Le blog est né de... parce que j'ai moi-même quitté mon métier salarié et ça faisait très longtemps, plusieurs années que j'avais envie de trouver une excuse pour partir en rencontre et raconter des histoires de vie. Donc le blog est vraiment né d'une envie d'aller rencontrer des gens et de raconter des histoires et particulièrement les savoir-faire et les artisans parce que déjà je trouve qu'il y a plein de belles valeurs à promouvoir dans le domaine de l'artisanat qui est inhérent aux métiers artisanaux et en fait c'est venu un peu aussi par hasard parce que je me suis baladée un jour à un festival de théâtre de rue et ma vue a comme zoomé sur les mains d'un monsieur qui était en train de faire des barbes à papa. Et j'ai vu des filets roses qui étaient sur ses mains. J'ai trouvé ça très esthétique. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un blog sur les mains, en fait, sur les mains en train de travailler. Et donc, les artisans.
Et donc, c'est comme ça que vous êtes arrivé aux artisans. Vous-même, vous êtes donc, vous disiez que vous aviez un métier salarié. Vous vouliez devenir indépendante, c'était ça, ce que vous recherchiez avant tout ?
Alors, j'étais responsable de projet en agence de communication, donc j'avais plutôt un travail qui s'effectuait, qui se déroulait devant un ordinateur, vissé sur une chaise. Et donc, je ne voyais pas toujours les projets, parce qu'en agence de communication, on travaille beaucoup sous appel d'offres. Donc, on émet beaucoup d'idées, mais on ne voit jamais forcément la concrétisation de nos idées. Et il y a un côté très frustrant, et tout simplement, je ne me sentais pas à ma place dans ce métier-là. Et moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est écouter des gens et écrire par rapport à ce qu'ils peuvent me raconter et écrire des parcours de vie.
Et pourquoi le choix du blog ? Vous pourriez faire des podcasts, vous pourriez faire des... Vous aviez envie d'écrire ?
À l'époque, moi j'aime écrire, donc c'est vraiment plus pour ça, parce que ça me permet aussi de repasser par mon filtre à moi. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec le ressenti, donc j'aime bien repasser par mon filtre à moi et raconter vraiment une histoire sur le blog. C'est pas du témoignage, c'est pas du factuel, je raconte vraiment une histoire, ce que j'ai ressenti dans l'atelier, ce à quoi ça me fait penser, donc il y a une grosse part d'imaginaire, contrairement au livre qui est plutôt qui est écrit sous forme de témoignage, où vraiment je réécris la parole des artisans. Donc plutôt ça. Et podcast, on n'en parlait pas trop encore à ce moment-là.
Je sais pas. Vous les avez choisis comment, ces nouveaux artisans dans le livre? Parce que vous en avez vu beaucoup plus. Pourquoi plus ceux-là que d'autres?
Alors, je les ai choisis parce que... Alors, déjà, certains, je les connaissais dans le cadre du blog. Donc, je savais qu'ils avaient une parole, une philosophie qui correspondait à ce que j'avais envie de promouvoir et de partager dans le cadre du livre. Et puis, je les ai choisis aussi parce que souvent, ils ont des savoir-faire uniques, soit à Paris, soit même quasiment en France. C'est des personnes qui...
On découvre des métiers.
Oui, on découvre des métiers. Ouais. Et il y a des métiers qui sont revenus à Paris, qui n'existaient plus, comme Charles, qui est coutelier, avec qui on sera, je crois, tout à l'heure.
Cassez mes effets.
Désolée.
Je pensais, voilà, la marbreuse de papier.
La marbreuse de papier.
Je ne savais pas du tout que ça existait comme métier.
Ouais, bah c'est une reconvertie aussi. Elle est photographe à côté également. Et je crois qu'ils ne sont que deux à Paris. Elle a été formée par un monsieur qui a ce savoir-faire-là.
Alors, comme vous avez cassé mon suspense, je vais vous donner une épreuve. Expliquez avec des mots ce que c'est une marbreuse de papier, parce que moi, je ne saurais pas.
Elle applique la technique de la marbreuse de papier. Donc,
c'est très beau ce qu'elle fait. Hein.
Ouais, c'est très, très beau. Elle dépose de la peinture sur de l'eau qu'elle va venir capturer ensuite par une feuille de papier. Et c'était beaucoup utilisé anciennement pour les pages de garde des livres notamment. Et elle les utilise vraiment pour en faire de la papeterie, mais aussi en véritable quasiment œuvre d'art.
Tous ces gens dont vous parlez, ils en vivent de ce qu'ils font?
Oui. Oui, oui.
C'était un critère pour les sélectionner, que ce ne soient pas des amateurs ça à côté d'autres choses pour vivre.
Non, ça, ce n'est pas du tout un critère. Le critère vraiment principal, c'est la passion et la philosophie de vie qui accompagne leur métier. Et donc non, ça, c'est vraiment pas un critère. Mais par contre, oui, ceux que je connais en vivent, j'en ai rencontré d'autres pour lesquels c'est le début de leur activité. C'est plus compliqué parce qu'il faut aussi, comme tout entrepreneur, hein, c'est des entrepreneurs, donc il faut aussi le temps de s'installer. Certains ont deux métiers.
Au début, vous aviez deux métiers ou pas quand vous avez commencé à faire votre blog? Vous avez tout arrêté
Moi, j'ai sauté.
Vous avez sauté le pas sans...
Vous sentiez que ça allait marcher? Sans parachute.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui allait s'installer?
Non, c'est vraiment venu, je pense.
C'était une envie
d'aller rencontrer des gens. C'était une intuition, l'envie d'aller voir ces gens-là. Parce qu'encore une fois, c'est des valeurs que j'ai envie de partager. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager dans le cadre du livre. Donc...
Ça fait plusieurs fois que vous parlez de philosophie, de vie, de valeurs. Alors, comment vous les résumeriez?
C'est revenir... Mathieu Crawford, qui est auteur d'un livre qui s'appelle
L'éloge
du carburateur, qui est philosophe et mécanicien moto, dit que s'interroger sur les métiers artisanaux revient à s'interroger sur ce qu'est l'être humain. Et moi, j'avais envie de faire un livre humaniste, c'est-à-dire que ça parle de nous tous, qu'on ait envie ou pas d'être artisan. Ça parle de nous en tant que travailleurs, mais aussi en tant que consommateurs et plus globalement en tant qu'être humain. Et j'ai envie de défendre des valeurs d'authenticité, de simplicité, de respect, de retour au vrai, entre guillemets. Et il y a aussi l'idée d'être soi, d'aller vers sa vocation, de lui donner de sa place dans notre vie.
Vous vous sentez plus humaine, plus humaine en étant blogueuse qu'en étant chef de projet dans une agence de com?
En tout cas, ça a plus de sens. Déjà, je prends plus de plaisir au quotidien. Ça, c'est un critère important aussi pour savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc, je prends plus de plaisir et pour moi, ça a du sens ce que je fais. Déjà, je vois concrètement ce que je fais, même si quelque part, je suis aussi derrière un ordinateur. Mais quand j'écris un article, je peux quand même le voir. Quand je fais des photos, je les vois.
Vous étiez vraiment dans quelque chose de très, très abstrait, j'ai l'impression.
C'est le propre de notre société aussi. On évolue dans une société qui est une société très immatérielle. On partage beaucoup d'informations, mais au final, on ne voit jamais concrètement le fruit de notre travail, contrairement à des artisans, et c'est la raison pour laquelle ceux qui se reconvertissent ont une envie de revenir au concret, au tangible. Eux, à la fin de leur journée, ils savent concrètement ce qu'ils ont fait, ils peuvent le voir, ils peuvent le compter. Quand on est chef de projet ou, directeur marketing, financier, voilà, c'est un peu plus compliqué.
Gestion, demandez-moi des métiers.
Donc là, c'est effectivement beaucoup plus abstrait et ce que je fais aujourd'hui a plus de sens pour moi. Et encore une fois, ça correspond aussi à véritablement ce que j'ai envie de faire.
C'est vraiment l'objet qui compte, c'est de pouvoir le prendre en main, c'est Là, vous, c'est des rencontres. Donc, c'est des rencontres. J'imagine, vous ne faites pas au téléphone. Vous allez voir les gens.
Je vais voir les gens.
Vous les prenez en photo. Donc, vous êtes obligé d'aller voir. Vous discutez avec eux.
Je prends du temps pour discuter avec eux, pour échanger avec eux, pour être là dans l'atelier, pour ressentir l'ambiance, voir le savoir-faire. Je passe en général 3-4 heures avec chaque artisan, même dans le cadre du blog. Oui, c'est quelque chose qui prend du temps. Après, on n'est pas tous faits pour être artisan. Moi, je serais bien incapable, je n'ai pas du tout ce talent-là, je serais bien incapable d'être artisan. Mais une véritable envie, en tout cas, que ça ait du sens pour nous. Donc, le sens, c'est à quoi je sers et à quoi ça sert, ce que je fais. Et eux peuvent vraiment répondre à cette question.
J'ai vu que vous aviez travaillé avec les compagnons du devoir, mais aussi avec les ateliers de Paris. J'avais envie de vous demander à quoi ils vous avaient servi, comment vous aviez travaillé ensemble plutôt.
Alors, quand je suis allée voir donc, la maison d'édition, on avait besoin de...
Donc c'est Erol, je redonne le titre du livre, Nouveau Artisan, et vous êtes Magali Peruchini.
Oui, et en toute transparence, on les a sollicités pour avoir une aide financière.
Ah, d'accord, je pensais qu'ils vous avaient aidé dans la conception.
Non, ça s'est fait vraiment entre...
C'est parce que eux, ça leur permet de mettre en avant, ça permet de mettre en avant leur valeur.
C'est ça, c'est qu'ils étaient, étaient en adéquation avec le livre, avec ce que j'avais envie d'en faire et le message que j'avais envie de promouvoir.
Dites-moi, les artisans, ils sont tous jeunes et beaux. Vous leur faites passer un casting
C'est ce qu'on me dit. C'est la question qu'on me pose. Oui, bien sûr, je fais passer un casting, bien sûr. Vous pensez bien. Non. C'est vrai qu'ils sont tous beaux. Tant mieux. Hein. Moi, ça me dérange pas, surtout les hommes.
Très, très belles. Et je crois qu'on a avec nous au téléphone Charles Balleret. Allô, vous êtes avec nous, Charles?
Oui, bonjour, je suis avec vous.
Parfait, alors vous allez pouvoir nous le dire, comment vous avez été sélectionné? Vous avez envoyé des photos?
Comment j'ai été sélectionné? Pourquoi? Pardon, excusez-moi, je débarque, pour le livre. 5 secondes de la conversation.
Ah, d'accord, vous arrivez. Pour le livre donc, de Magali Peruchini, qui est avec nous, on parle de son livre Nouveau Artisan, dans lequel vous êtes, et je lui demandais un peu en blaguant si elle faisait passer des castings, donc je lui demandais si vous aviez envoyé une photo.
Non, oui, absolument. J'ai envoyé une photo, je ne vous donnerai pas les détails, mais j'ai envoyé une photo et elle m'a trouvé sublime. Donc c'est pour ça qu'elle m'a retenu pour son bouquin. Non, vous voulez que je vous raconte la vraie histoire?
Oui, allez-y, racontez la vraie histoire, évidemment.
J'ai fait un Kiss Bank Bank, vous savez, financement participatif. Et on avait fait une petite allocution dans les locaux de Kiss Bank Bank pour expliquer le boulot auprès de gens, quoi, et de gens qui nous avaient soutenus. Et Magali était venue. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et donc vous, à l'époque, vous faisiez un Kiss Kiss Bank Bank. Alors, on va vous rappeler, vous êtes coutelier, c'est votre activité?
Oui, pardon, excusez-moi.
Ouais, c'est moi qui manquais tous mes devoirs.
Je suis coutelier, reconverti, j'étais scénariste de dessin animé avant. Et comme j'avais créé un petit couteau pour Paris, le petit parisien, un couteau régional, je voulais à la fois valider, voir si ça fonctionnerait auprès des gens, et puis en même temps lever un peu de fonds pour pouvoir lancer la coutellerie, quoi. Donc j'ai fait le Kiss Kiss Bank Bank pour ça.
Et ça a marché donc?
Ah ben ça a marché pas mal, ça a marché pas mal, j'avais levé 9000 euros, donc ça avait marché pas trop mal.
Plus rien à oublier. C'est la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. Oh, oh. comme ça, ça passera, tu verras.
C'était 23 minutes du groupe qu'on adore ici à Radio Campus. Il s'appelle Radio Elvis et c'est un extrait de leur deuxième album, Ces garçons-là.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
On se retrouve donc avec Magali Peruccini qui a écrit un très beau livre sur les nouveaux artisans aux éditions Erol. Et avec nous toujours au téléphone, Charles Barbaleret qui a peut-être été surpris par le départ de la chanson. Alors vous étiez scénariste de dessin animé, vous nous disiez, et vous êtes devenu coutelier. Quel est le point commun entre les deux métiers? Je ne sais pas, j'arrêterai de faire des dessins animés. Moi, j'ouvrirai peut-être une boucherie charcuterie, mais coutelier, ça m'a surpris.
Eh bien, je vais vous expliquer, c'est hyper simple. C'est que quand vous êtes scénariste, vous êtes collé derrière un écran. Alors, il y a évidemment la créativité, l'imagination. Vous faites bosser votre tête, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes un peu la solitude de l'ordinateur, quoi. Et vos doigts, ils servent à toucher des touches de plastoc. Donc au bout d'un moment, c'est un peu gavant. Et je pense que j'étais frustré des mains, c'est ce que j'avais déjà expliqué à Magali. Et donc j'avais envie de fabriquer un truc avec mes mains, un vrai truc concret, clair, voilà.
Mais
donc,
pourquoi un couteau?
Alors le couteau, je ne suis pas du tout psychopathe de nature, même pour tout vous avouer, je suis un peu phobique des couteaux par rapport aux films genre Chucky et tout ça, les grands couteaux de cuisine, tout ça, ça m'angoisse un peu. Mais j'étais pas parti pour faire des couteaux au départ, j'étais parti pour faire des épées, parce que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. Et c'était mon délire au départ. Mon frère, je me suis vite calmé. Je suis allé sur un truc un peu plus simple. Et il s'avère que ça avait été les couteaux.
Oui, si je me rappelle bien votre portrait, vous faites des jeux de rôle, hein, c'est ça?
Oui, absolument. Je suis un geek invétéré. Donc, ouais, absolument.
Donc vous étiez parti pour faire une épée. Puis vous vous êtes dit, une épée, il n'y a pas vraiment de marché. Donc, on va faire des couteaux.
Non, pas du tout. J'avais contacté un forgeron d'épée. Il y en a deux en France.
Ah ouais, vous êtes tenace, vous, dans le genre.
Ben, pourquoi pas?
Non, mais c'est pas un reproche, c'est un commentaire.
Je le contacte pour voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il bosse bien? Est-ce qu'il a régulièrement des commandes? En gros, c'est quoi le marché, quoi? Et lui, apparemment, il en avait. Je me suis rapproché après d'un coutelier d'art pour me former à ça. Et le coutelier d'art m'a dit, avant de faire des épées, mon petit, faisons des couteaux. Donc j'ai fait, d'accord, alors on va faire des couteaux. Et puis ça veut dire que je me suis pris au jeu, que j'ai trouvé ça super marrant, fun, excitant. Et à la fois, ça continue, c'est encore un métier créatif puisqu'il faut dessiner des modèles de couteaux, il faut les inventer.
Les vôtres sont très beaux. Les vôtres sont très beaux. Alors, je ne sais pas, on dit le manche du couteau, mais vous faites tout un travail sur avec des matières, des impressions, et c'est très joli ce que vous faites.
Bah, écoutez, merci beaucoup. Il faut que je m'amuse en fait. Donc tant que je m'amuse, tout fonctionne.
On parlait de couteaux, on parlait de ces gens que vous avez rencontrés. Devenir artisan, c'est aussi à la fois assurer une transmission, mais c'est aussi trouver quelqu'un qui fasse cette transmission. C'est difficile de trouver aujourd'hui. Bah, pour vous, visiblement, vous n'avez pas eu trop de mal à trouver quelqu'un pour vous apprendre.
J'ai pas eu trop de mal. En même temps, il n'y en a pas beaucoup en France, hein, très honnêtement. Des couteliers d'art qui sont prêts à vous former, il n'y en a pas des masses. Moi, c'était plus une question de personne. J'en ai eu plusieurs au téléphone dont le discours ne me plaisait pas. Enfin, il y avait un truc un peu vieil ours dans sa grotte, quoi, qui me cassait les pieds. Et Raymond Rosa, le type qui m'a formé, c'est mon maître Yoda à moi, le type qui m'a formé, m'a tenu un discours au téléphone qui était super, très sensoriel en fait, et ça m'a parlé, quoi.
Et justement, quand on trouve quelqu'un comme ça, donc avec qui on s'entend bien et avec qui on peut le faire, il y a un rapport financier entre vous? Vous le payez pour vous former? C'est une transmission, c'est un don, du don contre don? Ça se passe comment, concrètement?
Non, c'est tout à fait de la formation payante.
Magali, qui est avec nous toujours... C'est un problème chez les uns les autres de trouver quelqu'un qui assure cette formation, de trouver un maître, entre guillemets?
Ça dépend pour quel métier. Ils se forment beaucoup via les CAP en général. Après, il y a des métiers qu'on n'apprend plus. Donc, il faut plutôt, comme l'a fait Charles, se former auprès d'un maître qui va transmettre les gestes, le savoir-faire. Mais voilà, globalement, c'est plutôt... Alors, j'en ai même rencontré, je ne me souviens plus exactement le métier, mais dans le blog, j'en ai même rencontré qui s'était formé en regardant des tutos sur Internet. C'est assez rigolo, on peut apprendre avec les moyens modernes des savoir-faire traditionnels.
Ouais, donc là, c'est de l'artisanat 3.0. Ouais. Charles, vous êtes toujours avec nous. Oui. Vous êtes coutelier, je rappelle, et on vous doit le petit Paris ou petit Parisien, je ne sais plus.
Petit Parisien.
Le petit Parisien, donc, qui est un couteau spécifique, qui, si j'ai bien compris, aussi un peu un objet que vous avez fait parce que vous pouvez le produire en plus grande série.
Oui, absolument. C'est un objet que j'ai fait parce que je peux le produire soit au cas par cas, soit en plus grande série en faisant découper les pièces métalliques au laser.
Et ce que je voulais vous demander, donc, on a vu comment vous aviez appris, est-ce que c'est aussi important pour vous d'acquérir ce savoir et de pouvoir un jour le transmettre ? Il y a comme l'idée de conservatoire des savoirs, je ne sais pas comment dire ça autrement.
Oui, non, mais je comprends bien. Alors, on me pose la question souvent en ce moment, et en ce moment, je me sens encore un petit peu padawan, là, pour parler comme dans Star Wars, je suis encore un peu trop un disciple. Mais dans quelques années, je pense que ouais, je me sentirais de le transmettre.
Mais c'est quelque chose que vous avez envie de faire ?
Oui,
vous aviez envie de sauver un savoir ? Pas sauver, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais...
Non seulement parce que, primo, en province, il est déjà rare. Alors à Paris, je ne vous en parle même pas, quoi. À Paris, il n'y en a pas, à part moi, quoi. Je suis le seul coutelier artisan. Mais en revanche, j'ai pas mal de demandes. Soit des reconvertis, soit des gamins qui veulent faire un CAP coutellerie, qui cherchent un endroit pour faire leur apprentissage. Enfin, vous voyez, donc... C'est pas que j'inspire les gens, pas du tout.
Inspirez beaucoup. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir.
Oh, mais merci beaucoup, c'est génial. Je suis très flatté.
Vous parlez dans le livre un moment de durabilité non programmée. J'adore cette expression, mais elle veut dire quoi ?
La durabilité non programmée, bah, ça veut dire que vous avez un objet qui va durer et c'est pas prévu qu'il tombe en rade hyper vite, comme un iPhone, par exemple.
Et ça fait partie de la grandeur de l'artisanat ?
Bon, je ne sais pas si c'est la grandeur de l'artisanat, ça, mais en tout cas, ça va un peu à rebrousse-poil de la société contemporaine. Il ne s'agit pas d'être réac, pas du tout, c'est pas ça la musique. C'est qu'on est dans une société aujourd'hui où on vous vend extrêmement cher des trucs qui crèvent hyper vite. Et il y a, comme qui dirait, légèrement abus. Voilà. Donc moi, comme je me sens emmerdé par ça, qu'on nous considère comme des portefeuilles ambulants, ben, je suis content de faire un objet qui dure.
Merci beaucoup Charles Balleré, voilà, j'ai pas réussi à dire votre nom, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coutelier, vous êtes un des héros de Nouveaux Artisans, le livre de Magali Peruccini qui est avec nous.
Merci, au revoir.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Magali Peruccini, donc on est toujours avec vous, vous êtes resté, on n'a pas raccroché le téléphone. Il est emblématique des autres, Charles, qu'on vient d'entendre là.
Dans l'idée de reconversion, oui. Dans l'envie d'avoir, de revenir à quelque chose de concret, d'être, comme il dit, frustré parce qu'il avait envie de faire quelque chose de ses mains.
Il dit qu'il éprouvait la frustration de ne pas utiliser ses mains autrement que pour taper sur un clavier dans votre livre.
Ouais. Et ça, pour ça, oui, c'est une des paroles que j'entends beaucoup et un de leurs points communs.
Ouais, moi, ça me fait penser, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à la phrase du psychanalyste Lacan qui dit « Le réel, c'est quand on se cogne, quoi. » L'envie de vraiment de retoucher la matière de... Je tape dans mes mains, c'est pas bien du tout au micro, pardon. Mais on a l'impression que cette envie-là, quoi, de
revenir à la matière, et la matière, en fait, est leur maîtresse. C'est vraiment elle qui... ils vont devoir l'apprivoiser, la comprendre... Donc, c'est des savoir-faire qui sont longs à acquérir, qui demandent beaucoup d'expérience, qui demandent beaucoup d'échecs à refaire, à refaire. Et ils apprennent les gestes comme ça en faisant. Ils sont un peu soumis à la matière, parce que c'est elle qui...
C'est une maîtresse dans tous les sens du terme. À la fois, elle les domine, mais en même temps, elle leur apporte, j'imagine, beaucoup d'amour.
Voilà, et complètement ça. Il leur
en
donne
en tout cas. Ouais. On va parler de toute autre chose. Vous parliez de tutoriels sur Internet. Lui, parler de financement participatif. Est-ce à dire que tous ces outils numériques servent aussi beaucoup à ces nouveaux artisans ?
Complètement, mais c'est ça. Et c'est un des critères aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est un des critères pour lesquels je les ai choisis, c'est-à-dire qu'ils allient à la fois le savoir-faire traditionnel à la modernité. Donc soit en utilisant des techniques modernes aujourd'hui, soit en utilisant aussi beaucoup les réseaux sociaux, Internet, le e-commerce, etc. Donc ils sont vraiment, tout en étant ancrés dans un savoir-faire traditionnel, ils sont pleinement aussi ancrée dans la modernité et utilise les techniques qui sont aujourd'hui à portée de main.
Votre livre est préfacé de Jean-Laurent Casilli, qui avait écrit la révolte des premiers de la classe l'an dernier. Il parle d'un mouvement de protestation discret. Est-ce que c'est l'impression que ce que vous ont donné ces néo-artisans, finalement, ils sont opposés au monde dans lequel on vit, on va dire, pour faire vite, le monde libéral, le monde capitaliste, et qu'ils ont envie de retrouver un monde plus lent, plus durable, comme disait à l'instant Charles?
Il y a cette idée-là, effectivement, parce qu'ils produisent des objets durables qu'on va pouvoir conserver toute notre vie, qu'on va même aussi pouvoir transmettre à nos enfants, ce qu'on a un peu oublié. On n'imagine pas notre bibliothèque qu'on a achetée chez un grand distributeur pouvoir la léguer à nos enfants. Donc, il y a effectivement l'idée de durabilité. C'est vraiment... ils réhabilitent le temps long aussi. Dans notre ère de l'immédiateté, eux, comme je le disais tout à l'heure, sont soumis à la matière. Donc c'est des temps très longs, des temps de séchage, de mise au four, enfin, etc. C'est des produits qui mettent vraiment du temps à être fabriqués. Et puis pour moi, c'est vrai qu'il y a une espèce de petite révolution douce qui est en train de s'opérer, mais une vraie tendance de fond à revenir à quelque chose qui est pour moi plus humain, quoi, à revenir à ce qu'est l'être humain à la base, un être créatif qui est respectueux de...
Une dimension politique dans leur démarche?
Non, ils ne le font pas du tout. C'est pas des militants. Hein. C'est pas du tout des militants. Ils reviennent à ce qu'ils ont envie de faire vraiment. Ils répondent à leur vocation. Mais ce qu'ils font s'inscrit dans quelque chose de respectueux pour la société.
Vous dites qu'ils reviennent à leur vocation, à ce qu'ils aiment vraiment, et c'est-à-dire que certains ont toujours voulu faire ça, mais on leur a dit passe ton bac d'abord, et ils ont passé leur bac, ils ont fait des études supérieures, ils étaient bons en maths, pas de chance, tu seras ingénieur.
C'est complètement ça. Dans le livre, il y a, autant dans le blog, c'est quasiment que des reconvertis sans le faire exprès. Et dans le livre, c'est vraiment des artisans qui ont fait le choix d'un métier manuel. Donc soit ils ont répondu à leur vocation précoce, soit ils se sont reconvertis sur le tard. Mais pour ceux, effectivement, qui se sont reconvertis pour le tard, pour la plupart, savaient très bien dès l'adolescence qu'ils avaient envie de faire, par quoi ils étaient appelés vraiment, qui était un métier artisanal. Sauf que, encore un peu maintenant, mais à l'époque en tout cas, les métiers artisanaux étaient des voies de garage pour ceux qui avaient supposément pas la tête assez bien faite. Et pour ceux qui correspondaient aux normes de ce qu'on attend à l'école, eh bien, il fallait faire des études pour avoir un bon travail, pour avoir un bon salaire. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne marche pas.
En plein dans la thématique du livre de Jean-Laurent Casilli.
Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'essaye aussi de montrer. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi un livre qui parle de ce qu'on est en tant que travailleur, mais aussi en tant que consommateur et globalement ce qu'on est en tant qu'être humain. Donc, y a, effectivement, ils reviennent vraiment à leur vocation et ils l'expriment, quoi.
Vous savez s'il y aura un tome 2 ?
Non, mais j'aimerais bien.
Vous avez déjà des noms ?
Oh bah j'en ai plein, puisque j'en ai choisi 25, mais du coup, ça veut dire que j'ai choisi de ne pas en mettre d'autres, et j'en ai plein en tête, plein que j'aimerais pouvoir valoriser aussi. Mais voilà, il n'y avait que 25 portraits dans ce livre-là, et c'est vrai qu'il y en a plein d'autres dont j'aimerais pouvoir partager le parcours et le travail et le savoir-faire.
Merci beaucoup d'être venue, Magali Peruccini. Merci nous parler de nouveaux artisans, portrait d'une génération qui bouscule les codes, qui a apparu aux éditions Erol. Et on était au téléphone avec Charles Bellabaloret, qui est coutelier et qui propose le Petit Parisien. Voilà, c'était La Relève, épisode 6 de la saison 3. L'émission était proposée et présentée par Christophe. Elle a été ô combien embellie par la réalisation d'Adèle. Comme l'an dernier, vous retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook ou sur le site de Radio Campus Paris. Merci de nous avoir écoutés et à dans 335 heures. D'ici là, restez à l'écoute de la nouvelle grille de Radio Campus Paris.